la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Alors bienvenue dans cette matinale de 19h spéciale Droits de l'enfant, car oui, c'est la journée internationale des droits de l'enfant qui nous rappelle à la signature de la Convention internationale et bien des droits de l'enfant, pardi, le 20 novembre 89. Alors parmi ces articles, le droit tout simplement d'exister, d'aller à l'école, d'être soigné, protégé, également de ne pas subir la guerre. Dans le monde entier, leurs droits restent bafoués par de nombreux facteurs, les violences familiales, le harcèlement scolaire et autres traumatismes qui viennent heurter profondément la croissance de nombre d'enfants à un âge fragile. Notre responsabilité est collective pour briser le silence et donner à ces enfants les moyens de grandir paisiblement à l'abri des menaces. Évidemment, à l'international, tous ne sont pas égaux et impossible donc de ne pas penser aux enfants de Gaza et du Soudan pour ne citer qu'eux. Autant vous dire qu'il y a encore du boulot. Au sommaire, un zoom de Diane qui reçoit donc Nathalie Donikian, directrice littéraire du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Lia fera pour nous un petit tour des actualités du jour et aux chroniques, Eve nous fera une chronique entre Lumière et Abeille. Et Gauthier nous livrera un hommage. Mais d'abord, la grande interview de la matinale avec Hugo et Éric Delemar, défenseurs des enfants et adjoints de la Défenseur des droits dans le cadre de la sortie de leur rapport sur les droits de l'enfant, justement, consacré au droit à une justice adaptée.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Bonjour Hugo.
Bonjour.
Bonjour Éric Delemar.
Bonsoir.
Bonsoir Éric, vous êtes, comme l'a dit ma collègue, défenseur des enfants et adjoint de la Défenseur des droits chez Défenseur des droits justement. C'est une autorité administrative indépendante qui exerce notamment qui a fait un rapport sur les droits de l'enfant, consacré aux droits de l'enfant et à une justice adaptée. Justement, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dire ce que c'est que Défenseur des droits ?
Oui, le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution et qui défend nos droits et nos libertés. Et notre travail, il est de rappeler le droit aux institutions, aux associations habilitées, notamment à la défense ou à la promotion des droits de l'enfant. Et puis de faire aussi des instructions, des réclamations. Nous sommes saisis par nos concitoyens, des personnes, quand ils ont des difficultés d'accès aux services publics, d'accès, qu'ils vivent des discriminations. Et particulièrement pour les enfants, mon travail est de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à ce que vous avez cité tout à l'heure, c'est-à-dire le respect de la Convention internationale des droits de l'enfant, que la France a ratifié en 1990, quelques mois après 1989, et a été un des tout premiers pays du monde à ratifier cette convention au nom de l'histoire aussi, c'est-à-dire la France, le pays des droits de l'homme, cet état des droits.
Et ces droits, un petit peu aujourd'hui, sont un peu remis en question. Dans ce rapport, il est dit que la mise en œuvre de la responsabilité pénale des mineurs délinquants doit ainsi rechercher leur relèvement éducatif et moral. Alors, comment on relève éducativement et moralement un enfant ?
Alors, je crois d'abord ce que je souhaitais vous dire, parce que c'est le 36e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Bien
Ça
sûr.
Veut dire que cette convention, aujourd'hui, elle est célébrée dans tous les pays du monde, dans les 196 pays qui ont ratifié cette convention. C'est important parce que j'ai aussi le plaisir et l'honneur d'être le président des défenseurs des enfants des pays de la francophonie. Et comment vous dire, sale temps pour les enfants. Augmentation, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de conflits, de guerres, mais sale temps pour les enfants parce qu'on n'a jamais eu autant d'enfants déscolarisés sur la planète aujourd'hui, jamais autant d'enfants victimes de violences ou d'enfants qui sont amenés à travailler pour subvenir à leurs besoins. Ça, c'est la réalité. Alors en France, bien entendu, nous avons des lois protectrices depuis très longtemps, et notamment le code de justice pénale des mineurs qui venait de... Qui a, il y a deux ans, remplacé en gardant les grands principes de l'ordonnance du février 45. Et rappelez-vous, en 45, on dit, après la Seconde Guerre mondiale, on dit « La France est trop peu riche d'enfants pour pas suffisamment bien s'en occuper ». Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on soit plus riche d'enfants aujourd'hui. On a une baisse de la démographie et on a besoin, effectivement, de protéger nos enfants. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, bien sûr, quand des enfants commettent des délits, il y a la sanction en fonction de leur âge, ce qu'on appelle le discernement. Ce discernement qui se construit sous la protection de ses parents au fur et à mesure qu'on grandit. C'est-à-dire qu'on est plus capable de comprendre les choses, la responsabilité de ses actes, ses conséquences, quand on a 15 ans, plus qu'à 10, et encore plus que si on avait 5 ans. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'au fond...
Comment on évalue ce discernement chez un enfant, justement ?
Alors, ça, c'est pour ça que la justice, le juge des enfants, par exemple, eh bien, il va entendre l'enfant capable de discernement. Capable de discernement, et lorsqu'il n'est pas discernant, il peut solliciter un administrateur ad hoc, et lorsque l'enfant est discernant, il peut, en assistance éducative, en protection de l'enfance, par exemple, il peut solliciter, désigner un avocat. Effectivement, je pense que moi, il faudrait que ce soit de facto que les enfants puissent bénéficier de l'administrateur ad hoc ou de l'avocat à chaque fois qu'il est en assistance éducative. Mais au pénal, quand il est mis en cause, là c'est obligatoire la présence de l'avocat, c'est présence, mais je rappelle que la responsabilité pénale en France pour un enfant c'est 13 ans. En dessous de 13 ans, si un enfant commet des délits en dessous de 13 ans, il ne peut avoir que des mesures de réparation, des mesures de protection de l'enfance, quitte à parfois à être accueilli dans un établissement de protection de l'enfance.
Ça veut dire qu'à 13 ans on pense qu'il a un discernement autonome complet ?
Alors, il y a bien entendu des enfants de plus de 13 ans qui ne sont pas totalement discernants. Et le juge des enfants doit aussi pouvoir en tenir compte. Il a aussi la possibilité de mettre en œuvre, de solliciter l'avis d'experts psychologues ou pédopsychiatres, hein, d'experts auprès des tribunaux. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'on ne juge pas un enfant comme un adulte. C'est le principe constitutionnel de la justice pénale des mineurs, rappelé par la Convention internationale des droits de l'enfant qu'on célèbre aujourd'hui.
Et justement, le RN veut abaisser cette majorité pénale. Pourquoi veut-il faire ça ? Est-ce que c'est une bonne idée ou justement, à contrario, c'est une très mauvaise idée ?
Non, mais je crois qu'il faut rappeler la réalité des faits. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont les suivants. C'est-à-dire qu'au fond, nous avons une baisse de la délinquance des enfants et des adolescents, des mineurs. Mais par contre, nous constatons, c'est vrai, un rajeunissement, c'est-à-dire des enfants plus jeunes et des passages à l'acte plus graves. Mais je rappellerai qu'on met le focus en permanence sur les mineurs, mais que dire de l'exemplarité des adultes ? L'augmentation, on ne le met jamais en contrebalancement, de l'augmentation de la violence des majeurs. Ça ne veut pas dire que celle des mineurs doit être excusée, mais ça veut dire qu'au fond, pourquoi nos enfants feraient mieux que les adultes dans une société relativement violente ? Et c'est important de rappeler aussi que les enfants que j'ai rencontrés, les enfants qui ont participé à ce rapport, puisque ce rapport, c'est 1600 enfants à travers la France qui ont participé à ce rapport, nous avons aussi auditionné des experts dans tous les domaines, le droit, l'éducation, la psychologie, l'animation. Et puis nous avons aussi, nous sommes servis, nous avons utilisé la jurisprudence des décisions du défenseur des droits en matière de justice pénale. Et que nous disent les jeunes ?
Qu'est-ce que la jurisprudence, juste pour nos auditeurs ?
Eh bien, pour nous aussi, c'est les instructions que nous menons à chaque fois que, par exemple, les droits des enfants ne sont pas respectés. Alors, sur les sujets qui nous réunissent aujourd'hui, c'est le manque d'éducateurs à la protection judiciaire, le manque d'associations qui vont être, normalement, une fois que le jeune arrive devant le juge des enfants, en audience de culpabilité, alors ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire que dans les 10 jours à 3 mois le passage à l'acte, il doit être entendu par le juge des enfants de manière assez réactive. Et puis après, il y a une mise à l'épreuve. Et puis quelques mois après, il y aura le jugement, en général 6 à 9 mois après, pour le jugement définitif. Mais la mise à l'épreuve au milieu, ce qui est fondamental, c'est-à-dire punir pour punir un enfant en devenir, ça n'a aucun sens. Bien sûr qu'il faut punir, mais en même temps, il faut pouvoir réparer, il faut pouvoir soigner, il faut pouvoir éduquer, il faut pouvoir insérer. Et ça, entre les deux, vous avez ce temps de mise à l'épreuve. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? On manque cruellement d'éducateurs. Alors, on a des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui font un travail extraordinaire. Mais souvent, avec le Code de justice pénale des mineurs, qui, encore une fois, a fait des avancées puisqu'il réduit le temps du jugement, parce qu'avant, on avait des jeunes qui pouvaient attendre comme ça 2-3 ans avant de passer devant un juge. Maintenant, ce n'est pas le cas. Mais encore faut-il que juger plus vite, c'est aussi s'occuper des enfants un peu plus vite, éduquer les enfants un peu plus vite. Et on a des éducateurs qui sont qui croulent sous les rapports, qui font la queue au tribunal, qui arrivent à 9h et peut-être que le jeune va passer à 14-15h, alors que ces éducateurs devraient aussi être dans le faire avec, de pouvoir être dans des mesures éducatives de réparation auprès des jeunes. C'est ça qui est important pour un jeune, c'est qu'il se rende compte de ce qu'il a fait et de pouvoir réparer ce qu'il a fait.
Donc l'aspect répressif prend trop souvent le pas sur l'aspect éducatif. Est-ce qu'en punissant sans comprendre, on perpétue ce cercle de délinquance infantile ?
Ah mais c'est évident que pour Badinter, dont on a célébré cette année l'arrivée au Panthéon, disait quelque chose de fondamental. Il disait, on ne construit pas sa vie à partir de... Enfin, les enfants ne construisent pas leur vie à partir de peines à exécuter, mais de chances à donner. Ça veut dire que, bien entendu, la loi a prévu que, en termes d'atténuation de responsabilité, c'est-à-dire qu'un jeune qui commet un délit sera condamné à la moitié qu'un adulte. Alors, entre 13 et 16 ans, c'est différent, mais entre 16 et 18 ans, c'est le principe. La loi permet aussi qu'à partir de 16 ans, sous certaines conditions, pour des graves délits ou crimes, là, le jeune de 16 ans puisse être condamné comme un majeur. Mais ce qui est fondamental, c'est de rappeler que sanctionner, sans comprendre, sans, encore une fois, apporter le soin, sans apporter les compétences de l'insertion, le suivi de l'insertion, c'est fondamental. Quand je suis allé rencontrer des jeunes dans des lieux d'incarcération, dans des centres d'éducation fermés, et que je les écoute, j'ai pris vraiment le temps de les écouter, je vois chez ces jeunes-là un parcours, un continuum de violence, violence intrafamiliale, décrochage. C'est même pas du décrochage scolaire, c'est que parfois, ils n'ont même pas accroché à l'école. Ça veut dire qu'à 7, 8, 9 ans, ils étaient déjà déscolarisés et qu'on courait pas après eux pour les scolariser parce que c'est des jeunes qui posaient des problèmes, qui avaient subi des violences intrafamiliales très fortes, des violences dans les quartiers, soumis parfois à des conditions socio-économiques très déplorables.
Et ça, le juge, il le prend en compte au moment du jugement ?
Le juge le prend en compte. Bien sûr que le juge le prend en compte. Le juge le prend en compte. Alors, quand il le prend en compte quand l'enfant, quand il a connaissance de la situation, et bien entendu, souvent en amont, c'est-à-dire lorsque l'enfant est dans situation de danger. La difficulté, c'est que quels sont les moyens de la protection de l'enfance aujourd'hui ? On voit qu'on a des vraies difficultés d'accompagnement, on a des vraies difficultés d'accès aux soins. Les enfants, la santé mentale des enfants protégés est totalement dégradée par rapport à la population générale qui, elle, ne va déjà pas toujours très bien. Et surtout, nous avons des problèmes de coordination dans nos politiques publiques entre les continuités de parcours, entre la protection de l'enfance et le suivi pénal. La protection de l'enfance dépend des départements. Le suivi pénal dépend des services de l'État et de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ces enfants, entre 13 et 16 ans, où est-ce qu'ils sont envoyés quand ils attendent le procès et après le procès ? Ce sont des foyers, des prisons pour mineurs ?
Alors, la responsabilité pénale, c'est à partir de 13 ans. Donc, effectivement, un jeune peut aller en prison à partir de 13 ans s'il a commis un crime ou un très grave délit. Avec tout ce que je vous disais tout à l'heure, la proportionnalité, l'atténuation de responsabilité derrière une peine beaucoup, beaucoup moins forte, beaucoup moins longue. Ce qui est important, c'est de redonner. Le jeune, il va sortir dans quelques années, dans quelques temps. Il a bien entendu, tout doit être fait pour éviter la récidive et prendre en compte aussi les circonstances. La société a une part de responsabilité dans l'éducation des enfants.
Mais il va
enfants.
Où ce jeune alors ?
Alors ce jeune, il va aller, s'il a commis des délits, il peut avoir d'abord, en fonction de la gravité des délits, il peut avoir un suivi. Il peut avoir un suivi avec des injonctions, l'obligation d'aller à l'école, l'obligation de ne pas être dans le quartier. Il a un suivi par des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, hein, dans des unités d'accueil de jour. Et puis, si les délits sont plus graves, il peut être en centre d'éducation et centre éducatif renforcé et des centres éducatifs fermés, qui là sont des lieux de privation de liberté. Et puis, des quartiers pour mineurs dans des prisons ou des établissements pour mineurs qui, eux, sont des prisons uniquement pour mineurs.
On va se laisser sur une petite pause musicale et on reprend juste après.
We will fight impossible to tame like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a run. Freedom, you hold me, I scream your name through all of the mess.
c'était Gone 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 de David Guetta, Teddy Swims et Tones and I, rien que ça. Et tout de suite, on reprend notre grand entretien avec Éric Delema, défenseur des enfants et adjoint de la Défenseur des droits, interviewé par Hugo.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Éric Delemar, pourquoi est-ce que dans le débat public ressort-il souvent une opposition entre d'un côté les mineurs victimes qu'il faut protéger et de l'autre les mineurs auteurs qu'il faudrait sanctionner plus souvent et plus fermement ?
Alors effectivement, dans le débat public, on entend toujours comme si ils étaient séparés totalement. Alors effectivement, ils attirent l'attention à juste titre quand ils sont protégés, en danger. Et puis quand ils passent à l'acte, on ne veut surtout pas les comprendre et on ne veut surtout pas comprendre leur parcours. On rappelle que 55% des jeunes qui commettent des délits ont eu une mesure de protection de l'enfance. Donc c'est fondamental. Il y a aussi un certain nombre de ces jeunes qui ont connu des échecs scolaires, des troubles psychologiques avec des suivis par des établissements médico-sociaux. Et donc ce qui est vraiment important, fondamental, c'est de voir en sorte que ce sont des enfants qui n'ont pas été protégés, donc qui partent avec moins de chance. Alors bien sûr, si tout de suite, lorsqu'on évalue qu'un enfant est en danger et qu'on met les moyens éducatifs, psychologiques, cadrants parfois, pour accompagner ces jeunes, et bien effectivement, si ces jeunes-là sont livrés à eux-mêmes, et bien on les retrouve régulièrement dans des passages à l'acte. Et le premier symptôme le plus visible, c'est une déscolarisation, mais très 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 tôt. Parfois, certains jeunes délinquants ont quitté l'école avant la fin du primaire. Il faut bien se rendre compte, c'est-à-dire comment on identifie, comment on repère ces enfants-là. D'autant plus que pour avoir accès aux soins aujourd'hui, vous avez des centres médico-psychologiques, des psychopédagogiques, où vous avez une liste d'attente avec des durées de 6 mois à 2 ans pour une première consultation. Quand vous avez 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est maintenant que vous avez besoin de soins. Et donc, souvent, on a ces jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Et donc, on a cette opposition. Voilà. Alors, en même temps, je vais vous dire, c'est pas d'hier qu'on stigmatise la jeunesse. Alors, c'est vrai qu'on aime nos enfants, mais parfois, on a un peu le sentiment que si on pouvait avoir nos enfants sans leur enfance, qu'est-ce qu'on serait tranquille, quoi. On voudrait qu'ils soient autonomes tout de suite. On voudrait les condamner comme des adultes. On est incapable, notre société est incapable de comprendre, alors pourtant on en parle du numérique, que les ados d'aujourd'hui sont nés avec les réseaux sociaux. Et que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les relations humaines sont challengées par les relations numériques. Ça veut dire qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants ? Il y a un enjeu d'éducation énorme. Faire en sorte que les enfants ne soient pas exploités, soit pas sous emprise par rapport aux fake news, etc. Donc il y a un vrai enjeu. Donc si on ne comprend pas ça, eh bien, on peut continuer à stigmatiser les enfants. Je rappelle qu'en France aujourd'hui, sur la population globale des personnes incarcérées, on a 85 000 personnes incarcérées. Alors, il y a 900 mineurs en ce moment. Mais 85 000 pour 62 000 places. On va continuer comme ça pendant combien de temps ? On a 29 000 surveillants pénitentiaires, il en manque 6 000. On a 29 000 postes, il en manque 6 000. Donc on peut continuer à dire, voilà. On est un pays qui condamne énormément, alors qu'il faut aussi comprendre, il faut pouvoir avoir des mesures alternatives. Je comprends bien que dans le débat actuel, c'est compliqué, d'autant plus qu'on alimente en permanence l'insécurité.
Alors comment on règle cela justement ? C'est un manque de moyens, c'est un manque de personnel, on l'entend. Mais est-ce que la prévention au final, elle a assez lieu dans les écoles aussi, ou est-ce que cette prévention, elle est encore limitée ?
Alors, une des recommandations que nous faisons avec Claire Hédon dans ce rapport, c'est bien entendu renforcer la prévention. La prévention, c'est une politique, c'est l'angle mort des politiques publiques. Comme si, au fond, la prévention, eh bien, alors comme quand ça marche, ça se voit pas trop, donc on n'a pas de politique publique très forte. Alors, on va faire des choses formidables. On va faire, par exemple, les 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours qui permettent de vraiment d'intervenir en prévention, en soins, en éducation, dès que la maman est enceinte, jusqu'aux presque 3 ans de l'enfant. Sauf qu'on devait déployer ça sur l'ensemble du territoire. En fait, on ne le fait pas. La protection maternelle infantile, on manque de moyens. Les unités d'accueil petite enfance, qu'on appelle les crèches, on manque de personnel. Dans les écoles, c'est ce qu'on dit régulièrement, dans les écoles, on manque d'infirmières scolaires, on manque de psychologues scolaires, on manque de médecins scolaires, on manque d'assistantes sociales scolaires. Ce qu'on appelle le premier degré, l'école primaire, Mais on a une école primaire qui est plus du tout en accord avec l'évolution des enfants qui, quand ils arrivent en CM1, en CM2, qui rentrent dans la puberté, etc. On voit bien que les enfants auraient besoin, comme au collège d'ailleurs, et pour autant il manque déjà du personnel au collège, mais ils auraient besoin de psychologues, encore une fois, d'infirmières. Et il n'y en a pas, il faut attendre d'arriver en 6e pour en avoir. Donc on voit bien que tout ça, eh bien, les plus vulnérables sont les premiers qui sont les victimes ils sont victimes chez eux. Victimes dans le quartier, parfois ils sont victimes dans l'institution parce que l'institution n'a pas toujours les moyens de répondre. Donc c'est renforcer la prévention. Mais renforcer la prévention, c'est du courage politique parce que ça veut dire que c'est sur 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est vraiment un enjeu de protéger les enfants contre toutes les formes de violence, c'est un enjeu de démocratie.
Tandis qu'un politique va appliquer un programme qui va marcher sur 5 ans parce que lui, il veut des effets peut-être plus rapides.
Je ne commande pas la vie politique, je ne sais pas. En tout cas, on voit bien qu'on...
Et c'est long, 15 ans.
On voit bien quand même que cette année... 2025, on fête les 80 ans de l'ordonnance du 10 février 45. C'est vraiment là, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, c'est protéger les enfants qui ont été livrés à eux-mêmes, les enfants orphelins, et qui ont eu une forme de délinquance de survie. Et puis, mais à ce moment-là, en 1945, certains déjà disaient il faut les mettre en prison, il faut les mettre en prison. Ça a toujours été, il y a toujours eu au cours des siècles des gens pour condamner les enfants. Mais c'est là que le général de Gaulle a dit la France est trop peu riche d'enfants pour pas en prendre soin. Mais aujourd'hui, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la France est peu riche d'enfants. On est un pays qui vieillit. On est un pays qui vieillit. On est un pays qui effectivement met des moyens à certains endroits. Il en manque, mais en termes de politique publique, sur les personnes de plus de 60 ans, par exemple, et c'est vraiment fondamental de le faire. Mais pourquoi on fait pas la même chose sur la toute petite enfance, là où tout commence? Et c'est ça qui est fondamental. Sinon, on va continuer comme ça à prôner des politiques de sanctions sans comprendre. Et ça ne va rien changer. Il faut absolument... La sanction, elle est cadrante. Un enfant doit savoir ce qui est interdit par le règlement, ce qui est interdit par la loi, et avoir des réponses adaptées en fonction de son âge.
Nous parlions également avant de suivi thérapeutique. Est-ce qu'un enfant qui commet un délit, il est automatiquement envoyé en suivi thérapeutique ou ça ne l'est pas forcément?
Alors ça c'est un vrai enjeu. Par exemple, on sait que les établissements dont je vous parlais tout à l'heure, donc ce qu'on appelle les établissements, les foyers de la PJJ, qui peuvent être associatifs ou publics, des centres éducatifs renforcés, donc avec du personnel, ou des centres éducatifs fermés, là, qui sont des lieux de privation de liberté, avec énormément avec du personnel formé, etc. Bien souvent, il manque des psychologues, il manque des psychiatres, il manque des pédopsychiatres. On n'a pas suffisamment formé, la pédopsychiatrie est peu considérée dans la médecine, donc on manque de monde. Donc,
pourquoi elle est peu considérée?
Parce que sans doute que de s'occuper des enfants, c'était moins noble que de s'occuper des adultes. On voit bien que en fac de médecine, ceux qui vont faire pédopsychiatre, ils sont pas nombreux, quoi. On va choisir d'autres vocations peut-être plus rentables, je ne sais pas, ou qui sont peut-être où on ira au sentiment d'avoir plus de recherche. Mais l'enfance est peu considérée, mais tous les métiers de l'enfance sont peu considérés.
Le rapport recommande donc également de consacrer dans la loi une présomption irréfragable de non-responsabilité pénale pour les moins de 13 ans. Qu'est-ce que cela veut dire?
Ça veut dire qu'en dessous de 13 ans, il ne peut pas y avoir de condamnation. Ça veut dire qu'au fond, on a eu des enfants de 8 ans qui ont été, où on est allé chercher, la police est allée les chercher, par exemple. On a des enfants de 8 ans qui ont été entendus en tant que, qui avaient été mis en cause et qui ont été entendus en tant que témoins. 2 heures d'audition. En tant que témoin, vous n'avez aucune garantie procédurale. Pas d'avocat, les parents ne sont même pas là. En audition libre, si vous étiez en audition libre, vous pouvez quitter quand vous voulez. Imaginez, c'est un enfant de 8 ans, 9 ans qui va dire bah, je m'en vais face à un policier. Enfin, c'est pas possible, il va pas oser le dire. Donc on voit bien que là, on a besoin, bien entendu, d'éduquer, de rééduquer les enfants avant 13 ans, mais qu'ils ne peuvent pas être condamnés et qu'il ne peut pas y avoir de procédure à leur encontre. C'est ça que nous défendons. Et ce que nous défendons là, c'est défendu par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, par la Convention internationale des droits de l'enfant.
Et nous devons également nous adapter au temps de construction de l'enfant. Alors comment est-ce qu'on adapte la justice à ce temps de construction?
Eh bien, ça prend du temps. Ça prend du temps, donc forcément, c'est pas dans des politiques comme ça très rapides ou des prises de position un peu comme ça qui vont rassurer ou insécuriser, qui vont changer. C'est vraiment prendre le temps, c'est remettre l'enfant au cœur de dispositifs. Et on est parfois, on est très bien formé en France. On a des gens très bien formés, mais on a peu de formation de coopération. On a des cloisonnements des politiques publiques. Je vous disais, la protection de l'enfance, la protection judiciaire de la jeunesse, le médico-social, l'éducation nationale, ce sont comme ça des politiques publiques qui ne partagent pas forcément les mêmes cultures professionnelles, qui ne dépendent pas n'ont pas toujours les mêmes moyens. Et qui ne vont pas forcément s'occuper des enfants en même temps, ou alors chacun leur tour, et pas de manière coordonnée. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental de remettre la coordination autour de l'enfant.
Quand vous dites la coordination, vous voulez dire...
Eh bien, par exemple, ça veut dire que s'il y a de l'insertion, du soin et de la protection, eh bien, qu'on n'attende pas 6 mois, on déclenche celui-là en 6 mois, on déclenche l'autre dans 6 mois et l'autre encore dans 1 an et demi. Ça veut dire qu'il faut pouvoir, bien sûr qu'il faut protéger immédiatement, mais on a des enfants qui sont protégés aujourd'hui ou qui sont dans des lieux, parce qu'ils ont commis des délits de la protection judiciaire de la jeunesse, et qui sont déscolarisés parce qu'il n'y a pas d'école ou qu'on ne va pas en trouver, ou qui font des apprentissages mais on ne va pas pouvoir les continuer, ou qui devraient aller voir un psychologue mais il n'y a pas de psychologue de disponible, ou un pédopsychiatre, il n'y a pas de pédopsychiatre de disponible, ou un lieu d'hospitalisation de temps en temps pour aller se poser, et il y a des départements où il n'y a pas de pédopsychiatre, il n'y a pas de lit de pédopsychiatrie. Il n'y a pas de lit. Et la pédiatrie n'est pas du tout adaptée pour accueillir ces enfants-là.
Merci beaucoup Éric Delemar d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes défenseur des enfants et adjoint de la défenseur des droits. Merci Hugo d'avoir mené cette interview et merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Et on va passer directement au Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir à tous. Des crimes contre l'humanité commis en Cisjordanie occupée. C'est ce que dénonce aujourd'hui un rapport de Human Rights Watch. L'ONG s'est intéressée à l'opération Mur de Fer, lancée en début d'année par l'armée israélienne. Il s'agit du déplacement forcé de Palestiniens contraints de quitter 3 camps de réfugiés en Cisjordanie occupée. Les maisons qui s'y trouvaient ont été détruites. 32 000 personnes seraient toujours déplacées dans des conditions précaires. Un nouveau plan de paix, mais à quel prix ? Kiev a reçu une proposition émanant des États-Unis. Celui-ci inclut notamment des exigences du Kremlin. Par exemple, l'Ukraine devrait reconnaître l'annexion de la Crimée et réduire son armée de moitié. C'est un revirement inattendu. Ces dernières semaines, Washington durcissait plutôt le ton face à Moscou. En France, durant l'année 2024, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Un chiffre en hausse révélé ce matin. Il provient de la mission interministérielle pour la protection des femmes. Le constat est alarmant. Chaque jour, plus de 3 femmes sont victimes de féminicide ou tentatives de féminicide. Gérald Darmanin et Laurent Nunez étaient à Marseille cet après-midi. Au programme, une réunion sur le narcotrafic. Les ministres de la Justice et de l'Intérieur ont rencontré la famille du jeune Mehdi Kessassi, assassiné il y a maintenant 1 semaine. La justice suspecte un crime pour intimider son frère, Amin Kessassi. Il était ce matin au micro de France Inter. Le militant anti-trafic appelle à la mobilisation. Une marche blanche est prévue samedi dans la cité phocéenne. Il nous apparaît plus que compliqué d'organiser le maintien de l'édition 2026. Annonce du maire d'Angoulême cet après-midi. Xavier Bonnefond s'exprimait au sujet du festival de bande dessinée. Théoriquement, il doit se tenir en janvier, mais la société organisatrice est excusée de plusieurs dérives. Conséquence, des éditeurs et des auteurs appellent au boycott. Sans eux, pas de festival, affirment les collectivités locales. Elles financent l'événement à hauteur de 50%.
Merci Lia Roisin-Pilot pour ce superbe flash info. Et pour souffler un coup, voici un peu de musique.
Believe.
C'était 12 to 12 de sombre, j'adore, c'est trop dark. Et maintenant, on va écouter une chronique, tout simplement.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Alors Eve, tu vas nous parler soleil et abeilles, finalement, l'inverse exact d'un mois de novembre.
Tout à fait. Donc ouais, ce soir, je ne vais pas vous parler de la suite du vol des bijoux de Lorraine au Louvre, ni de l'énorme panne d'électricité qui a touché Paris ce matin, ni du narcotrafic qui a eu la peau du jeune frère d'Amine Kessassi à Marseille, et à qui nous pensons. Je vais parler de lumière, d'un peu de mythologie et d'un tout petit peu de gaz aujourd'hui. C'est une photographie qui ne vous a peut-être pas échappé cette semaine et qui a fait l'actu, le buzz, c'est la chute d'Icare d'Andrew McCarthy. Je vous avoue que ma passion numéro 2 dans la vie après l'écriture, ce sont les arts visuels et plus particulièrement la photographie ou la caméra. J'ai été hypnotisée par la chute d'Icare d'Andrew, astrophotographe américain qui a réalisé une photo lorsque son ami Gabriel Brown, parachutiste silhouette noire sur un soleil jaune volcanique, semble tomber dans celui-ci. On y voit un magnifique soleil en ébullition qui semble être au second plan et un tout petit bonhomme à gauche de la photo au premier plan, telle une mouche sur la télé. Merci le photomontage, merci les effets spéciaux. Je vais essayer de revenir à la fois, j'espère, sur le fond et la forme. Il aura fallu à Andrew McCarthy 6 tentatives pour prendre cette photo et c'est sans compter sur son ami pour le faire. En amatrice de photographie que je suis à la fois surprise et envieuse des moyens utilisés. Je n'ai qu'un appareil numérique sans super zoom et c'est déjà une très grande richesse pour moi. J'aimerais bien m'acheter un deuxième zoom, mais j'ai en fait un loyer à payer et des factures de gaz à régler. On me dit dans l'oreillette qu'Engie a retrouvé la trace des 299 000 euros versés à Rachida Dati, actuelle ministre de la Culture. Moi, j'aimerais bien qu'Engie me verse 299 euros pour m'aider à régler mes factures de gaz. Simplement. Beaucoup de médias ont dit que c'était LA photo de l'année. Et ça m'interroge parce que c'est comme si le titre de cette photo était un peu ironique de la part du photographe, quand on connaît l'histoire d'Icare, qui a trop voulu se rapprocher du soleil. Qu'est-ce qu'on relève? Qu'est-ce qu'on applaudit ici? La prouesse technique ou la dramaturgie de la photographie? Il n'est pas possible de corréler ce genre de photo au photojournalisme qui ne se donne pas le droit de tricher puisque le ou la journaliste va chercher la réalité des faits. Par contre, je peux corréler cette photo avec les photographes animaliers qui peuvent passer des heures à obtenir des clichés uniques, comme en témoigne le tout jeune lauréat du Wildlife Photography, dont Lubin Godin, pour sa photographie d'un bouquetin des Alpes, tout juste sorti de la brume matinale, est doré. Andrew McCarthy a utilisé 6 ordinateurs au sol, son appareil à super zoom et un ULM. C'est presque digne d'une grosse production hollywoodienne. On peut se poser la question des émissions de gaz quand on veut photographier la nature ou l'astre luisant. Ah oui, parce que je vous ne l'avais pas dit, la photo est très instagrammable et est vendue à 80 euros, sauf qu'on ne connaît pas dans quelle dimension elle sera imprimée. Je vous laisse juste de la monétisation de ce tirage. Est-ce qu'Icare ne s'est pas pris à son propre piège, justement, à vouloir convoler près des étoiles et des likes? Bien sûr, nous sommes tous fascinés par le soleil, au sens propre comme au sens figuré. Cette photo rappelle aussi les TikTokers qui veulent un peu trop se prendre en photo dans des paysages inoubliables, quitte à mourir de chute. Justement. Elle rappelle aussi la conquête spatiale de SpaceX, dans le but avoué de coloniser de nouvelles planètes sans forcément prendre soin de la nôtre et émettre un peu moins de gaz, justement. Je vais finir donc par la découverte de Lucifer. Je rappelle que dans une autre mythologie, Lucifer veut dire porteur de lumière. C'est une petite abeille qui a des cornes. Le diable est dans les détails. Alors s'il y a bien une qui peut nous faire détourner les yeux du soleil, c'est bien cette petite abeille inoffensive.
Merci Eve pour cette chronique photo et maintenant pour les fans d'informatique, on va tout simplement faire CTRL plus parce qu'on va passer directement au Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Alors aujourd'hui dans le Zoom, nous recevons Nathalie Donikian, donc directrice littéraire du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, un entretien qui sera signé par Diane.
Bonsoir Nathalie, est-ce que vous nous entendez?
Bonsoir, je vous entends très très mal.
Ah.
Attendez.
Est-ce que vous...
Je vais mettre, je sais pas, le haut-parleur. Vous pouvez parler?
Est-ce que vous nous entendez?
J'entends très mal. Je suis désolée. Vous m'entendez là?
Oui, on vous entend très bien. Il y a aucun problème pour le coup de notre
côté.
Oui, nous
on vous entend très bien.
Faut-il que je vous donne un autre téléphone?
D'accord.
Là, j'entends vraiment pas. Hein. Je suis désolée.
Eh bien, peut-être qu'on va faire une petite pause musicale et puis qu'on se retrouve juste après.
Allô ?
On m'a rien appris. Allô ? Au jeu du pas vu, pas appris. Mais j'ai vite compris que c'était pas des amis. Sont comme la patrie, veulent qu'on les aime à la folie. Ils m'ont ralenti, c'est rien yachi. On riait la vie en se poussant dans des caddies. Que des rapis à l'affût du meilleur prix. On était unis comme les cinq doigts d'une main petite. Certains ont trahi, ainsi va la vie. Y'a trop de billa, fâche comédien ou bien comme Mila qui parle mal. Un joint de tequila pour s'évader de là, car dans cette vie là je suis dans le mal. Mais t'inquiète, je suis là, toujours la role pas, car dans cet état que ça râle. Tant qu'il y a la vida, moi je lâcherai pas, car tout ce que je vois c'est trop sale. Ils ont tout oublié quand ils m'ont mis des rochers dans les souliers. Pendant longtemps je me suis fait oublier. Maintenant je reviens pour tout oublier. Ils m'ont mis des rochers dans les souliers. Pendant longtemps je me suis fait oublier. Maintenant je reviens pour tout oublier. Je veux mettre l'argent au centre car j'arrive pas de côté. Mettre l'argent au centre des meurtres qu'il y a à côté. Mettre à jeu ensemble, partageant ensemble ce qu'on a pu filmer. Car il me semble qu'aucun n'est condamné. Je veux mettre l'argent au centre de ce qui a pu se passer. Car c'est souvent de ces temps qu'il se passe des trucs de tanché. Les autres avec leur langue continueront de blablater. Les nôtres on est ensemble, ça va jamais bouger. Y'a trop de billa, fâche comédien ou bien comme Mila qui parle mal. Un joint de tequila pour s'évader de là, car dans cette vie là je suis dans le mal. Mais t'inquiète, je suis là, toujours la role pas, car dans cet état que ça râle. Tant qu'il y a la vida, moi je lâcherai pas, car tout ce que je vois c'est trop sale. Ils ont tout oublié quand ils m'ont mis des rochers dans les souliers. Pendant longtemps je me suis fait oublier. Maintenant je reviens pour tout oublier. Ils ont tout oublié quand ils m'ont mis des rochers dans les souliers. Pendant longtemps je me suis fait oublier. Maintenant je reviens pour tout oublier.
On m'a rien appris au jeu du pas vu pas appris. Mais j'ai vite compris que c'était pas des amis. Sont comme la patrie, veulent qu'on les aime à la folie. Ils m'ont ralenti, c'est rien yachi. On riait la vie en se poussant dans des caddies. Que des rapis à l'affût du meilleur prix. On était unis comme les cinq doigts d'une main petite. Certains ont trahi, ainsi va la vie.
C'était Oublié de Étire et désormais on va peut-être essayer de rejoindre notre invité de Zoom. Est-ce que vous nous entendez cette fois mieux ?
Bonsoir.
Bonsoir. On ne vous entend pas. Ah, allô ?
Allô, vous m'entendez ?
Oui,
on
vous
entend très bien.
Est-ce que vous nous entendez ?
Oui, c'est mieux.
Magnifique.
Ah, super, génial.
Ouais, et c'est génial, c'est ça, la technologie. Mis en haut-parleur.
Super.
Ça viendra jusqu'au bout.
Donc, ce soir, on vous reçoit pour le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, qui aura lieu le 29 novembre et jusqu'au 1er décembre à Montreuil.
Du 26 au 1er.
Ah, donc, du 26.
Ça commence mercredi.
Ok. Donc le thème de cette année, c'est l'empathie. L'objectif, c'est de pouvoir interroger l'impact des littératures jeunesse à transcender le réel. Pourquoi c'était important d'aborder cette notion d'empathie, surtout quand on parle à un jeune public ?
Parce que dans le monde dans lequel on vit, qui n'est pas toujours rose, mais qui est plutôt sombre, on avait envie de mettre en lumière la manière dont les littératures de jeunesse, que ce soit du côté du livre illustré, du roman ou de la bande dessinée, éclaire justement notre monde, mais aussi permet d'avoir cette distance par rapport à ce qui se passe et en même temps à mieux le comprendre tout en allant vers l'autre. Donc l'idée, c'était aussi de dire en quoi la littérature de jeunesse est un art assez singulier pour justement accompagner les enfants vers cette multiple forme de connaissances et en même temps de les célébrer en images et en mots. et d'éclairer d'une façon le chaos pour réduire un peu les fractures d'un monde qui ne va pas très bien et qui en même temps donne de l'espoir pour composer d'autres possibles, d'autres réels, d'autres réalités.
Et cette année, et même les années précédentes, vous avez des prix qui sont remis et sélectionnés par les enfants. Chaque année, l'objectif, c'est de mettre en avant le meilleur de la création jeunesse avec différentes catégories. Livre jeunesse, fiction junior, bande dessinée et fiction ado. Comment est-ce que ça se déroule et d'ailleurs, comment est-ce que ça s'est venu, l'idée de mettre en avant aussi des prix qui ne sont pas remis par des professionnels du milieu, mais par des lecteurs qui sont les jeunes directement ?
Parce que c'est bien de leur donner la parole, de leur laisser la parole, c'est une chose, c'est la première chose même, mais surtout la sélection se fait toute l'année, puisque nous au salon on a une équipe qui lit beaucoup avec un comité de lecture qui sélectionne, donc on a une plateforme de bonnes lectures qui s'appelle Kibookin, et à partir de toutes ces bonnes lectures, on va faire notre choix. Alors, c'est vrai qu'en lisant 4000 livres par an environ, en choisir 20, puisqu'il y en a 5 par catégorie, bah c'est difficile. Mmh. Mais on essaie d'équilibrer à la fois dans la diversité éditoriale, dans la diversité des univers, dans la diversité des univers qui peuvent parler aux enfants, que ce soit du côté de l'humour, du côté du fantastique, du réel aussi, bien sûr. Mmh. Et donc, une fois que cette sélection est faite, On sollicite les jeunes lecteurs, les jeunes lectrices qui candidatent. Et il y a 9 jurés par grande catégorie qui vont bientôt délibérer, d'ailleurs, puisqu'ils délibèrent mardi 25 novembre, à la veille du salon, okay, pour élire chacun donc une pépite livre illustré, une pépite bande dessinée, une pépite roman, fiction ado et une fiction junior. Ce qui fait que... ça donne aussi la manière dont ça éclaire la manière dont les enfants peuvent rentrer dans les livres, parce que quand on les voit délibérer, quand on les entend délibérer, c'est quelque chose d'assez étonnant, la perspicacité et la manière dont ils abordent ces livres et ces univers. Donc voilà comment c'est venu. C'est les prix en littérature, ça existe depuis un certain temps maintenant, et du côté de la jeunesse aussi. Donc, les enfants sont les deux. C'est la deuxième étape d'une certaine façon, puisque la première étape, c'est celle des professionnels du livre qui vont quand même sélectionner les 5 livres par catégorie.
Et cette année, plusieurs pays sont représentés, la Corée, le continent de l'Afrique, mais aussi la Suisse. Pourquoi c'était important de mettre en avant ces pays en particulier, et comment est-ce qu'on pourra les retrouver au sein du salon ?
Alors, on peut les retrouver de différentes manières. Alors, c'est important parce que justement, c'est aller vers l'autre. Ça fait partie aussi de cet art de l'autre qu'on a envie de mettre en mots et en images dans le salon. Et donc, on va les retrouver d'une part sur des stands, puisque par exemple, il y a 4 éditeurs africains qui ont fait le déplacement et qui seront regroupés en stand collectif. De même pour les éditeurs suisses qu'on ne connaît pas. Il y en a certains qu'on connaît évidemment et qui sont là depuis très longtemps. Mais en même temps, ces éditeurs qui sont présents cette année sont moins connus que La Joie de Lire, par exemple, qui est très bien diffusée en France. Même certains de ces éditeurs suisses ne sont pas diffusés en France, donc ça fait une véritable découverte. Et puis, à travers aussi des invitations d'artistes, d'auteurs. Donc, on a une autrice suisse, d'ailleurs, dans l'exposition que nous allons mettre en place au salon, c'est Maëva Rubli. Du côté de la Corée, c'est une invitation croisée en lien avec le centre culturel coréen en France qui va fêter en 26, donc c'est un avant-goût là, qu'on va vous offrir, qui va fêter en 26 les 140 ans des relations diplomatiques entre la France et la Corée du Sud. Et donc on accueille 6 artistes coréens qui vont faire des battles dessinés, des ateliers, des rencontres croisées avec leurs homologues français. Et donc, l'idée, là, c'était vraiment de multiplier les regards, en fin de compte, puisque tant qu'on... Dans cette panoplie, dans la manière de se repérer dans l'édition, c'est aussi une façon d'éclairer, là encore, des artistes que nous côtoyons peu. Voilà. Et c'était un peu cette idée-là.
Et en plus de ça, vous proposez un événement gratuit et accessible à tous et toutes. Vous mettez en place, à mon sens, une réelle stratégie d'inclusivité. Pourquoi c'est oui. important de rendre cette culture, et encore plus celle de la culture jeunesse, accessible à tous et toutes et donc ouvert au plus grand nombre?
Ben, c'est l'ADN du salon. Je crois que c'est vraiment l'ADN de toute l'équipe du salon et qui travaille toute l'année à des dispositifs inclusifs. Quel que soit le domaine dans lequel on intervient, puisqu'on mène toute l'année des actions qui permettent justement d'aller à la rencontre de l'autre aussi, de ceux qui sont un peu invisibilisés. On travaille beaucoup avec les centres sociaux, avec les structures sociales, avec les centres de loisirs. Mmh. Donc c'est aussi cette manière, encore une fois, d'élargir au plus grand nombre pour apporter le meilleur. Et cette politique d'inclusivité, elle est aussi née de cet ADN, puisque l'idée, c'était vraiment de proposer non seulement des dispositifs pour que chacun puisse venir au salon. Et donc, la gratuité en fait partie, oui. évidemment, puisque c'est toujours un blocage quelquefois symbolique pour des gens. Mais là, ça va au-delà, puisque outre une programmation accessible, donc on aura des lectures en langue des signes française, on aura des audiodescriptions d'albums, des audiodescriptions de l'exposition d'ailleurs aussi. Il y a aussi tout un dispositif qui est mis en place avec des fauteuils roulants, des flâneuses, comme on dit, okay. pour ceux qui sont... Voilà, donc c'est vraiment... quelque chose qui nous tient à cœur et que nous permet d'avancer de mieux en mieux d'année en année, puisque oui. c'est pas si fréquent en effet dans ce type de manifestation.
Et c'est important. Pour conclure, vous avez dit qu'il y avait pas de nombreuses performances, des entretiens, mais aussi des lectures dessinées qui seront proposées durant le salon. Est-ce que vous avez, un top 3 des activités à faire absolument qui peut-être vous a marqué dans l'organisation du salon?
Bah, ce qui est le plus marquant peut-être, c'est ça, c'est des formes spectaculaires de rencontres, puisque au salon, il n'y a pas d'atelier d'écriture, on ne peut pas se concentrer vraiment sur un type d'activité, mais c'est vraiment l'idée d'ouvrir les portes au maximum, d'avoir oui. ces lectures performances, dessinées, spectaculaires, et aussi, ça peut être dansé, ça peut, enfin, voilà, de croiser les différentes formes artistiques, ça c'est sûr. Et puis, oui, il y a des temps de rencontres qui me sont chers, notamment peut-être le temps avec la Grande Ourse 2025, oui. qui est Benoît Jacques, qui est un artiste pas si connu que ça, mais qui est un artiste singulier, qui est un peu un franc-tireur dans l'édition de jeunesse, on va dire ça comme ça. Il y a aussi une rencontre qui moi va me toucher, je pense, c'est une rencontre qui a lieu le dimanche qui s'appelle Gaza nous regarde,
oui.
pour
les enfants
Gaza, en solidarité avec les enfants de Gaza. Donc il y a c'est vrai qu'il y a multiples formes et je crois que chacun peut butiner là où il a envie de butiner. Ouais. On aura un petit studio de tournage aussi où on va pouvoir
Oui, l'idée, c'est que ce soit...
Donner son livre préféré. Donner... Et puis, toute une série de rencontres. De toute façon, c'est au hasard aussi.
Oui, l'idée, c'est aussi de...
D'aller de stand en stand. Il y a une programmation très large, très
merci riche. Beaucoup, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nathalie Donikian, donc pour nous parler du salon du livre et de oui. la presse jeunesse. Je suis désolée, on n'a plus de temps. Merci, Diane, pour cette chouette interview. Et tout de suite, on va finir l'émission avec... avec la chronique de Gauthier.
La matinale de 19h.
Alors Gauthier, il me semble que ce n'est pas vraiment une chronique, c'est plutôt un hommage, c'est comme ça que tu me l'as présenté. C'est à toi.
On peut dire ça comme ça. Bonsoir, cette semaine c'est ma 72e chronique sur ces ondes. Et ce soir j'aimerais reprendre une chanson de mes artistes préférés. Des artistes qui ont commencé très jeunes et qui surtout ont toujours su rester extrêmement humbles. Big Flo et Oli, avec leur chanson où ils disent que c'était mieux avant, qui s'appelle « C'était mieux avant ». Hey, ma génération elle a tout oublié des révisions du bac. Elle veut un dealer pas trop loin de la fac. Elle a grandi devant Zorglub à la télé. Vous savez la petite série qui se passait en Barclay. Elle faisait des tours géantes en capla et le tour de l'univers sur Google Bazaar. Elle allait à la patinoire pour faire du sparax, allait à Fête Foraine pour faire du barba papa. Elle comptait les slouchis pour s'acheter des Ugrex qu'elle parlait acheter au magasin de Ugrex. Toujours devant le big deal de Vincent Lagaffe avec Bill, leur meilleur représentant dans le parc défoncé. Elle mate les zinzins de l'espace, elle rigolait parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et toujours à vous regarder dans télescope pour savoir lequel de vous roulerait la meilleure clope. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps.
Oui, non, on est marre. Ah oui, pardon.
Remonter le temps, premier cheveu blanc. J'ai pris un coup de vieux, c'était mieux avant. Qu'est-ce que tu crois? Non. Dis pas ça, t'en parles pas des humains, merde.
Pardon, désolé, j'ai juste trop hâte en fait.
Mais bordel, tu crois que j'en ai quelque chose à foutre que t'es trop hâte? On bosse sur notre plan d'extermination des humains depuis des millénaires, putain, des millénaires. Qu'on s'informe, qu'on les observe au télescope, au microscope, on a lu toute leur page Wikipédia, ça a pris déjà 300 ans, on a envoyé en agent Bill du Big Deal, vous croyez qu'il venait d'où? Et toi, tu dévoiles tout dès le premier jour. On avait tout réussi pour le moment, toi... C'est pas possible, on peut pas se permettre de continuer comme ça. Tiens, on va entendre Crazy Frog. Lui, c'était un bon gars. Jamais il aurait dévoilé la couverture dès le premier jour. Paix à son âme, franchement. Mais tu sais, je vais rentrer sur notre planète là. Ils vont bien se foutre de ta gueule sur ce Rosplucht. T'as brisé notre plan, t'as tout niqué. Jamais on envahira la Terre à cause de toi. Tu sais quoi? Moi je vais m'en aller, de toute façon. Tu vas t'expliquer avec tes humains là, c'est plus mon problème de toute façon. Allez, ciao, m'en fous. Allez.
Gauthier, enfin le Gauthier qui reste, je comprends pas, ça veut dire que t'es un alien?
Oui, et je vais vous dégraisser, et j'ai très faim, gnam 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 gnam.
Je comprends pas ce qui se passe là, c'est ridicule.
Non, mais en fait c'est juste que là les aliens là ils vous mangent et vous mourrez face aux aliens et genre bah vous êtes pas assez le décès et...
Bah, super, merci. Merci Gauthier pour ta chronique. Donc c'est avec l'extermination de l'humanité que cette matinale se clôt. Hein. Je remercie plus ou moins chaleureusement, selon notre degré de proximité, Diane pour le Zoom, Gauthier pour sa chronique de blague, Eve pour sa chronique actualité, merci Bia pour le Flash Info, Hugo pour l'interview et évidemment Joël à la réalisation. Restez à l'écoute sur Radio Campus Paris, dans quelques instants, les quelques humains qui restent feront les voix du crépuscule. Bonne soirée sur le 93.9.